RCF.
Bonjour à tous et bienvenue dans Place des Mauges. Chaudron en Mauges est en fête le 23 septembre avec la célébration des 150 ans du village santé Saint-Joseph. Et pour nous parler de cet événement placé sous le signe de l'inclusion, nous recevons Bertrand Mauger, directeur des établissements Saint-Martin et du village santé Saint-Joseph. Nous recevons également Christelle Tabarek, responsable du pôle handicap, et Julie, qui réside au foyer des Roses.
Place des Mauges, Laure Baudet et toute son équipe sur RCF Anjou.
Nouveauté dans notre émission, des conseils santé pour tous, mais plus particulièrement en direction de nos aînés. Ce sera une fois par mois en compagnie de notre kiné, Fred. Et aujourd'hui, il est aussi question de mucoviscidose en prévision des virades de l'espoir. Alice Ferchaud-Forcato a rencontré des parents d'enfants atteints par cette maladie. Mais dans l'immédiat, on part à la chapelle Saint-Florent à l'occasion des Journées du patrimoine. Le château de la Baronnière ouvre ses portes au public le temps d'un week-end. Et c'est Maud Payen qui nous emmène dans ce lieu où l'histoire et la famille sont étroitement liées. Et le devoir de mémoire est à l'honneur au château de la Baronnière à la chapelle Saint-Florent.
Place des Mauges, culture.
C'est un événement un peu exceptionnel qui attend les visiteurs à la Baronnière. Les propriétaires ont concocté de nombreuses surprises, avec entre autres une reconstitution historique de la fin du XVIIIe siècle, avec des troupes vendéennes qui vont vivre le temps du week-end à la façon des soldats de l'époque. Et puis pour l'anecdote, ils dormiront même sur des meules de foin comme à l'époque. La propriété de la Baronnière est un lieu incarné et vivant pour parler de notre histoire avec un grand H. Le domaine a d'abord appartenu au général de Bonchamp, le fameux général qui a lutté contre les révolutionnaires et qui le paya de sa vie. Il est connu notamment car il a gracié les prisonniers avant de mourir, ce qui d'ailleurs sauvera sa femme. Quelle est l'histoire de cette magnifique bâtisse? On écoute Anne Dubouchereau, l'actuelle propriétaire du château.
On est au départ une famille d'armateurs nantais, donc la grande époque de Nantes. Et les armateurs nantais avaient besoin de s'établir, de trouver des terres. Et évidemment, après la Révolution, en 1801, la marquise de Bonchamp, donc la femme du général de Bonchamp, est criblée de dettes à cause des guerres de Vendée, parce que toute sa fortune est passée dans les guerres de Vendée. Et il cherche un domaine, et le domaine est complètement brûlé. C'est la Baronnière. Le vieux château est du 15e, il a été incendié, il ne reste plus qu'une tour. Et mon arrière-arrière-grand-père, en 1801, décide d'acheter tout le domaine avec toutes les fermes et passe une génération à reconstituer tout le domaine. Puis, la génération suivante, le château est en construction. On est alors de 1852 à 1856, 4 ans, par René Audet, le grand architecte à la mode de l'époque, dont le château 19e.
Ce château néo-gothique a été le premier à être classé monument historique du 19e et possède un rare et magnifique escalier à double révolution. Il ne reste du château de Bonchamp qu'une tour qui deviendra au moment de ses travaux la chapelle. Anne continue ainsi la visite.
La cour carrée est elle du 18e. Elle a été brûlée en partie, mais c'est une très belle cour carrée qui est vraiment très jolie dans les Mauges. On fait partie donc du pays des Mauges et on est vraiment le joyau des Mauges.
Sans oublier le jardin réorganisé par Anne. On y trouve un potager avec des légumes très originaux comme des courgettes oranges ou des tomates jaunes qui permettent de régaler les convives lors des réceptions. On est également émerveillé par les milliers de fleurs qui iront décorer le château. Dans ce jardin un peu précurseur, l'accent est mis sur les plantes qui ne nécessitent pas d'eau lors des sécheresses. Et juste pour la petite histoire, le fameux cirque naturel de Courrossé, d'où partent de nombreuses légendes, fait aussi partie du parc.
Merci beaucoup Maud, très beau programme en effet. Et nous vous invitons à aller voir le site internet www.chateaudelabaronnière.com et bien sûr la page Facebook où vous retrouverez toutes les informations concrètes. À noter aussi que nous aurons la joie d'accueillir prochainement Olivier Dubouchereau, propriétaire donc de la Baronnière, qui nous parlera notamment de son engagement au sein de l'association du souvenir vendéen. Allez, autre sujet pour cette année, on vous le disait, on a choisi d'adresser un petit message particulier à nos aînés. Une fois par mois, on retrouvera Fred, kiné, pour une rubrique santé faite de conseils tout doux.
Place des Mauges, le rendez-vous des Choletais.
Bonjour Fred.
Bonjour Laure.
Bon, alors pour cette première, vous avez choisi de nous parler d'un mot un peu barbare, la sarcopénie.
Eh oui, alors, qui connaît ce terme médical ?
Bah, personne.
Effectivement, pas grand monde. Et pourtant, c'est une pathologie qui nous touche tous. C'est une maladie sournoise, un processus lent qui se met en place dès le départ à partir de 55 ans. Et ça s'accélère avec l'âge. Et ça dégrade nos muscles.
Alors, comment est-ce qu'on s'en rend compte ?
Eh bien, c'est un peu le problème. C'est qu'au départ, on ne s'en rend pas forcément compte. Et c'est qu'après, qu'on réalise qu'on est de moins en moins tonique. On est de moins en moins assuré, on est moins agile, on est moins dynamique, la marche devient de moins en moins rapide. Bref, on ressent petit à petit, au fond de soi, une sorte de fragilité et on glisse vers une sorte de vulnérabilité angoissante.
Oui, vous nous faites un peu peur, là. Et c'est embêtant, donc, manifestement.
Ah oui, c'est le problème majeur de nos aînés, la sarcopénie. C'est un ennemi invisible. Nous, on est fait de muscles, vous comprenez, là. C'est ce qui nous maintient debout,
on le perçoit.
Bon. Et si on n'a plus de muscles, eh ben on n'a plus de force. Alors on vacille, on chancelle, et puis on tombe.
Alors est-ce qu'il y a des trucs ou des astuces pour lutter contre cette apparition insidieuse, cette fonte musculaire ?
Oui, cette maladie, elle est bien sûr réversible. C'est ça qui est important à retenir.
Bon, c'est le message positif de la journée.
Voilà. Et puis, il faut faire des exercices de renforcement musculaire.
Même si le mot fait peur, vous avez des propositions à nous faire ?
Oui, on peut faire déjà un petit exercice tout simple. Alors, voilà, on prend une chaise, il faut s'asseoir sur la chaise, et plutôt au bord de la chaise qu'au fond de la chaise.
Alors, on peut le faire même en direct, hein, en vous écoutant, on prend sa chaise.
Voilà.
Alors, après,
alors on est assis au bord de la chaise, et on va se relever doucement, se mettre debout, sans se servir des bras, simplement à la force des muscles des jambes.
Alors, vous n'avez pas les images, mais dans le studio, on a quand même les chroniqueurs qui sont en train de faire les exercices.
Hein. Voilà.
On verra progressivement si la fonte musculaire est invitée. Donc, on est assis, on se relève tout doucement.
Voilà, une fois qu'on est debout, on reste bien debout, on se grandit au maximum, on baisse ses épaules, on reste stable, on respire évidemment, et puis dans un second temps, on va se rasseoir. Et c'est là la partie judicieuse de l'exercice aussi, c'est qu'on se rasseoit tout doucement.
C'est-à-dire qu'il faut compter en se rasseyant peut-être ou pas, non ?
Non, on essaye bien sûr de freiner le mouvement le plus possible.
Ok, et on fait ça une fois ?
Non, on fait ça plusieurs fois. En fait, on peut le faire 3 fois, 5 fois, 6 fois, 10 fois. Ça dépend de chacun et de chacune.
Donc finalement, pour rester en bonne santé, lutter contre la fonte musculaire, on bouge ?
Exactement. Le maître mot, c'est ça. Lutter contre la fonte musculaire. On bouge, on bouge, on bouge. On s'arrête pas de bouger.
Merci beaucoup à vous, Fred. Et on vous retrouve avec joie dans un mois pour faire le plein de conseils pratiques pour bien vieillir. Et d'ici là, on compte évidemment sur vous pour appliquer les conseils. Allez, autre sujet santé, c'est un événement, les Virades de l'Espoir. Elles sont de retour à Cholet. C'est le samedi 24 septembre et un événement qui a, vous le savez, pour but de sensibiliser et de récolter des fonds afin de lutter contre la mucoviscidose. Alice Ferchaud-Forcato est allée sur le terrain rencontrer des parents d'enfants concernés par cette maladie.
Place des Mauges, événement.
Bonjour Alice.
Oui, bonjour Laure.
Alors, vous nous parlez de la mucoviscidose.
Alors, en effet, un nouveau-né sur 4000. C'est le nombre d'enfants aujourd'hui qui est concerné par la mucoviscidose. Lorsque le diagnostic tombe quelques jours après la naissance, c'est très lourd à porter pour les parents. La maman d'Albin, 6 ans, nous en dit plus sur cette maladie.
La mucoviscidose, ça veut dire mucus visqueux. En fin de compte, il se passe quelque chose au niveau des cellules qui fait que tout le mucus qui tapisse le corps et les organes est plus visqueux que chez une personne non atteinte de la maladie. Et donc ça a pour conséquence des problèmes respiratoires et digestifs. La maladie mucoviscidose, elle est connue surtout pour la toux très fréquente parce que le mucus qui tapisse les poumons est trop épais, on a du mal à s'en débarrasser et les patients atteints de mucoviscidose toussent beaucoup pour essayer de se débarrasser de ce mucus.
La vie d'Albin est presque comme celle de ses copains. Mais ce presque, c'est un programme de soins ciblés qui permet d'aider Albin. Séances de kiné respiratoire, exercices de renforcement musculaire, antibiotiques pris dans des conditions hospitalières. Bref, un quotidien rythmé malgré tout par la maladie. Surtout, la vigilance doit être totale face aux risques infectieux.
Alice, où en est la recherche ?
Elle avance, heureusement, avec des résultats parfois spectaculaires qui permettent d'augmenter visiblement l'espérance de vie des enfants touchés. Et c'est d'ailleurs pour cela que l'association Vaincre la mucoviscidose organise les Virades de l'Espoir. C'est un événement qui permet entre autres de récolter des fonds, mais aussi d'être dans la fête autour de ses enfants et de ses familles.
Et ça, c'est important.
Effectivement. Alors la maman d'Albin, justement, nous détaille ce programme.
Alors cette année, on va être sur une virade de l'espoir très musicale, avec plusieurs groupes de musique et des fanfares qui nous font l'honneur de venir sur l'événement. On aura aussi un conte musical, enfin des contes musicaux pour enfants le matin. On aura un entresort en caravane assez burlesque, donc de quoi rire. Et puis on aura la fabrique chorégraphique qui va nous faire l'honneur de danser encore une fois cette année pour notre cause. Et puis plein d'animations, donc des jeux type jeux forains un peu décalés qu'on a créés autour de la mucoviscidose, autour du thème de la mucoviscidose, de quoi sensibiliser les gens à la maladie, mais de façon comique. Et j'en oublie, on a aussi les élèves du lycée Renaudot Lamode qui vont venir vous faire participer à des ateliers de sérigraphie, par exemple. Il y aura des créations du lycée de Lamode qui vont être vendues. Voilà, donc un petit marché solidaire.
Très beau programme et merci Alice pour votre reportage. À noter que deux parcours de 4 et 12 kilomètres sont aussi prévus pour une marche, une course ou une balade en famille. Un rendez-vous donc à ne pas louper pour le plaisir de partager et de soutenir ses enfants touchés par la mucoviscidose. Allez, tout de suite, on s'interrompt quelques instants, en musique bien sûr, avec Téléphone, Je rêvais d'un autre monde. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Seconde partie de notre émission Place des Mauges depuis le studio RCF de Cholet. Et c'est le moment d'accueillir nos invités. Bertrand Mauget, directeur des établissements Saint-Martin et du village Santé Saint-Joseph, et donc à Chaudron-en-Mauges. Christelle Tabarek, responsable du pôle handicap, et Julie, qui réside au Foyer des Roses.
Place des Mauges, interview.
Bonjour à chacun, chacune. Bonjour Julie.
Bonjour Laure.
Bonjour Christelle.
Bonjour
Laure. Bonjour Bertrand.
Bonjour Laure.
Donc bienvenue à chacun. Alors le 23 septembre, le village Santé Saint-Joseph célèbre ses 150 ans. Je m'adresse d'abord à vous, Bertrand Mauget. Avant de parler de l'événement, quelques mots peut-être sur l'établissement que vous dirigez.
Il y a 150 ans, la première maison était ouverte par Louise Gabory.
Oui.
Et sous le patronage de la famille de Villoutré et des Dominicaines, L'établissement s'est progressivement agrandi, transformé, pour aujourd'hui accueillir un hôpital, un foyer pour les personnes en situation de handicap et un EHPAD.
Combien de personnes accueillies sur le site
aujourd'hui,
de Chaudron?
Aujourd'hui, on est sur 120-130 personnes accueillies sur le site.
D'accord. Et combien à peu près d'encadrants ou de personnes qui travaillent justement en direction
À peu près autant de personnes.
À peu près autant de personnes. Donc effectivement, un super encadrement. On imagine que les personnes sont choyées. On y reviendra tout à l'heure. Ah oui, Julie. Oui. Julie. Alors Julie, une précision pour nos auditeurs, parce qu'une fois n'est pas coutume, mais avec Julie, on a décidé de se tutoyer.
Oui. Oui, là.
Alors, il y a des valeurs présentes depuis le début, depuis la création de cet établissement, un certain nombre de valeurs forces. Quelles sont-elles, Bertrand ?
Alors, je crois qu'on peut les résumer par les valeurs aussi de la Fondation FACIC qui nous...
Alors, FACIC, on peut décliner l'acronyme ?
La Fondation pour l'Action Sanitaire et Sociale d'Inspiration Chrétienne.
Voilà, donc il y a le mot chrétien.
Absolument, donc c'est des valeurs issues des valeurs chrétiennes. Et aujourd'hui, on les résume sur accueillir et prendre soin. Je crois que c'est vraiment les valeurs forces de notre établissement et de notre fondation. C'est comment est-ce qu'on prend le mieux possible en charge les personnes qui sont accueillies dans nos établissements, mais aussi nos salariés, bien entendu.
Alors certaines d'entre elles sont peut-être plus difficiles à incarner que d'autres, j'imagine, dans ces valeurs. C'est un défi permanent de prendre soin en profondeur, en globalité des personnes accueillies.
Alors c'est un défi permanent, mais c'est surtout un défi collectif.
Ouais.
Et on a vraiment la chance d'avoir des équipes extraordinaires, engagées, volontaires, et qui adhèrent totalement à ces valeurs.
À ce projet.
À ce projet, absolument. Et donc c'est vraiment quelque chose de collectif qui est dans nos établissements. Et c'est d'ailleurs pour ça que les 150 ans du village Santé Saint-Joseph, c'est un événement collectif partagé par tous.
Alors, événement collectif, du coup, c'est bien, vous assurez la transition, c'est génial. C'est tellement collectif que ce sont les personnes accueillies, les résidents, qui ont bâti le programme. C'est ça ?
C'est un travail complètement collectif.
Donc, c'est pas vous qui avez dit, voilà, ça va se passer comme ci, comme ça. Non, c'est pas venu de la direction.
Absolument pas. C'est vraiment quelque chose qui a été construit sur la base de propositions, sur la base de réflexions collectives dans les unités. Et on verra le résultat.
Oui, et puis on va parler justement de ce beau programme. Mais avant cela, je me tourne maintenant vers Julie, qui donc vit depuis quelques années.
Depuis le 31 août 2015.
Depuis, d'accord. Donc ça fait 7 ans. Tu as fêté tes 7 ans au sein du foyer des Roses.
Oui.
C'est très joli comme nom.
Je vais pas fêter, j'attends un peu avant de le fêter.
Tu vas faire une petite...
Je sais pas.
Tu sais pas encore, il faut y réfléchir. Alors, tu as l'air d'être vraiment heureuse dans cette structure,
ah bah
Julie.
Oui, je suis heureuse.
Tu as des amis ?
Oui, plein d'amis.
Et vous êtes combien au sein du foyer des Roses ?
On est 11 résidents.
11 résidents et donc toutes des femmes ?
Non, il y a Stéphane Renaud aussi avec nous.
D'accord.
Donc Stéphane et Jérémy et Sylvain.
D'accord. Oui, donc vous êtes enfin, il y a des hommes et des femmes. D'accord. Et alors, qu'est-ce que c'est le quotidien ? Quel est ton quotidien, Julie, au foyer des Roses ? Tu as des activités ?
Oui, je fais atelier cuisine et atelier bois.
D'accord. Ça veut dire quoi, atelier bois ?
Je fais des ruches.
Ah, carrément !
On fait des jeux de preux tactiques.
Ouais.
Mais là, Yannick, il est en train de construire un bar pour mettre devant l'atelier cuisine.
D'accord, ok. Et vous ferez des petits cocktails fruités avec des jus.
Moi, je ne suis pas inscrite
à cet atelier-là. D'accord.
Moi, je suis inscrite dans le stand des chichis.
Alors, ça, c'est justement, Julie nous parle de l'événement du 23 septembre. Et c'est super, effectivement, puisque les résidents, et ceux aussi donc du coup du pôle handicap, ont choisi de tenir un certain nombre de stands. Et donc, Julie, par exemple, on la retrouvera au stand Chichi avec d'autres.
Oui.
Et avec des éducateurs pour gérer aussi les choses à gérer.
Ah oui.
Et toi, c'est ce qui te plaisait d'être dans un atelier cuisine ?
Oui.
D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme propositions qui sont faites durant cette journée ? Alors, je ne sais pas qui
veut... Le matin, célébration à 11h.
D'accord.
Après, apéro, repas festif.
Oui.
Un gros gâteau pour les 150 ans.
qui est fait par les résidents, ce gros gâteau, ou c'est un pâtissier extérieur?
Ça, je sais pas.
Ouais, on verra. Ouais.
On a souhaité aussi avoir une kermesse, guinguette. Oui. On va vendre des chichis, de la boisson, des glaces. On va faire des glaces aussi.
Oui.
Lâcher le ballon. On a invité des enfants de l'école de Chaudron. On a prévu pêche à la ligne. Pour faire la fête, on a deux musiciens, accordéon.
On a donc, ça va danser, ça, tout le monde va danser le jour J.
Je pense.
Oui.
On a prévu aussi pêche à la tour de calèche.
D'accord.
On a prévu un centre de photos pour jouer des jeux en bois. On va s'amuser, faire la fête.
Super, ça c'est un joli programme effectivement que Julie nous a présenté en détail. Alors moi je voudrais revenir avec Bertrand Mauget sur un point important de ce programme, la présence des écoliers. Parce que cette journée elle est quand même placée sur la notion d'inclusion et d'intergénération. C'est des notions importantes pour vous, Bertrand ?
Alors c'est des notions fondamentales. Le village Chanté Saint-Joseph est au milieu de Chaudron en Mauges et cette ouverture, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps et qui est apprécié de tous, que ce soit les résidents, les professionnels, mais aussi les habitants de Chaudron-en-Mauges.
Alors les enfants donc de toutes les écoles de Chaudron seront présents le 23 septembre à vos côtés et donc pourront participer aux différents stands. On a entendu parler de pêche à la ligne, mais aussi de tour de calèche. J'imagine que ça va être la joie partagée.
Nous aurons le plaisir effectivement d'accueillir plus de 80 enfants des écoles de Chaudron-en-Mauges, ouais. Avec énormément de plaisir et énormément de dynamisme, j'espère. Ça apportera beaucoup de vie dans nos établissements.
Alors, je me tourne maintenant vers Christelle Tabarek. Donc, bonjour Christelle.
Bonjour là.
Donc, vous êtes responsable du pôle handicap.
Tout à fait.
Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des structures, justement, dont vous êtes en charge ?
Alors, c'est vrai que tout à l'heure, on parlait du foyer, donc le foyer de vie. Alors, l'unité qu'a citée tout à l'heure Julie, c'est une unité sur quatre, c'est-à-dire que le foyer est composé de 40 résidents. Mmh. Donc l'unité des Roses, hein, où vit Julie, mais on a d'autres unités, comme l'unité des Gauganes, je voulais les citer, unité des Tulipes et unité des Violettes.
D'accord, voilà. Et donc j'imagine qu'elles ont chacune un peu leur...
Alors l'unité des Violettes, la spécificité, ce sont on n'accueille que des jeunes qui donc étaient en établissement IME.
D'accord.
Et qui du coup ont plutôt entre 20 et 25 ans. Voilà. Et qui partagent aussi leur vie et des activités avec les autres unités.
Bien sûr.
Les autres unités sont plutôt des unités qu'on accueille des adultes entre 20 et 60 ans. Mmh. Hein, il n'y a pas d'âge. Voilà. Mais cette unité est très spécifique. Et quand Julie parlait tout à l'heure de l'atelier, comme elle disait, l'atelier cuisine, atelier bois, nous avons ce qu'on appelle aussi un pôle atelier qui est rattaché au foyer de vie. Et donc, on présente principalement quatre ateliers. On fait un petit peu plus, mais quatre ateliers. Donc, je voulais aussi les présenter. Il y a l'atelier nature, et dont l'activité calèche. Hein. Il y a l'atelier restauration cuisine, un atelier donc bois, ce que disait tout à l'heure Julie, et un atelier espace vert potager.
D'accord. Parce qu'on vous entretenez.
On a beaucoup de place et beaucoup de voilà. On a beaucoup de et le potager par exemple quand on ce sont les résidents hein, avec le moniteur d'atelier qui se charge du potager et ensuite il est proposé et vendu au personnel du village. Donc c'est intéressant aussi
la d'avoir démarche. Des bons produits.
Et ce sont les résidents qui vont vers le professionnel amener les légumes, etc. Hein, ou le miel, par exemple, parce que c'est pareil aussi pour le miel.
Donc l'inclusion sous toutes ses formes.
Voilà. Et on a aussi, ce que je ne veux pas oublier, c'est les personnes aussi. On a une unité pour personnes en situation de handicap vieillissante et une unité pour personnes en situation de handicap âgées. Et ces personnes-là, donc qui ont entre 45, 60 ans et plus, qui sont un peu plus fatigables, peuvent aussi participer à ce pôle atelier.
Alors, Christelle, je voulais parler d'un point qui est important. Quand une personne donc arrive dans le village santé de Chaudron, vous travaillez avec elle sur un parcours avec des objectifs. Comment est-ce qu'on fait pour tenir compte des aspirations on travaille sur un.
Mon projet, c'est de voir des appartements et puis de faire des stages.
De faire des stages, d'accord, voir des appartements et faire des stages. Et donc Christelle, comment est-ce qu'on définit ce projet personnalisé?
Alors, c'est ce qu'on appelle, nous, un projet d'accompagnement personnalisé. On attend la première année, c'est-à-dire que la première année de l'accueil du résident, on apprend à se connaître, on prend confiance, on observe, on écoute. Et ensuite, les professionnels, alors on a des professionnels de différents métiers, que ce soit les professionnels du métier éducatif ou que ce soit psychologue ou autre, moniteur d'atelier, éducateur technique spécialisé, nous amènent en tout cas des propositions, mais qui sont d'abord des propositions qui sont recueillies avec la personne. Je dis souvent aux professionnels, si quelqu'un vous dit j'ai un projet être, je sais pas moi, pilote d'avion par exemple, c'est quelque chose qui va peut-être être difficile à réaliser, mais en tout cas on le note. On le prend en compte, on prend tout en compte, et ensuite après on regarde ce qui peut être priorisé
fait dans cet environnement-là.
Tout est fait avec la personne. Le résident participe même à ses, alors pas à toute l'élaboration du projet, mais à une partie, et elle est présente avec l'équipe de professionnels.
Très bien. Alors, dernière question avant de rendre l'antenne. Si on prend un peu de recul et si vous deviez définir votre vision de l'inclusion, Bertrand Mauget. C'est pas facile. Généralement, les dernières questions, c'est les plus difficiles.
En fait, la vision de l'inclusion, c'est d'abord et avant tout une vision d'ouverture. Ouverture sur l'extérieur, ouverture sur les autres. Et c'est en fait une de nos missions. Favoriser cette inclusion, c'est par les projets personnalisés dont on vient de parler, quelles sont les compétences qui sont nécessaires pour pouvoir accéder à cette inclusion. Julie nous disait, je veux visiter des appartements et je veux habiter toute seule. Ça nécessite un certain nombre de compétences. Donc nous, une de nos missions, c'est lui apporter ses compétences, l'entraîner, la rassurer, la mettre aussi dans un cadre protecteur pour qu'elle puisse expérimenter, essayer et réaliser vraiment ce qu'elle souhaite faire.
Merci beaucoup, c'est ainsi que s'achève cette émission. Merci Bertrand Mauget, Christelle Tabarek et Julie d'avoir été nos invités. On pensera à vous particulièrement le 23 septembre à l'occasion des 150 ans du village Santé Saint-Joseph. On espère que les chichis de Julie et ses amis seront délicieux. Merci à vous en tout cas de nous avoir suivis et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Place des Mauges.